France Culture, merci beaucoup d'être à l'écoute. Il est midi et demi. Tout de suite, le journal de Ludovic Quétenu. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Passation de pouvoir ce matin à Bercy. Emmanuel Macron cède son portefeuille à Michel Sapin. Nous entendrons les deux hommes dans un instant, ainsi que le commentaire de notre invité. Il a été ministre, Jean-Pierre Chevènement, nommé à la tête de la Fondation pour l'Islam de France. Avec lui, nous ouvrirons l'abécédaire de la campagne. Désormais, chaque mercredi, un invité, un sujet, une nouvelle entrée dans ce dictionnaire en cette année d'élection présidentielle. Aujourd'hui, lettre L comme laïcité. Dans ce journal, une bonne nouvelle pour l'emploi en France. Alstom est choisi par la SNCF pour imaginer le train à grande vitesse de demain, précision d'Hakim Kasmi. En Allemagne, les épouses devront avouer à leur mari si l'enfant à naître n'est pas de lui. Le gouvernement allemand impose aux femmes l'aveu d'infidélité. Nous appellerons Cyril Sauvageau, notre correspondant à Berlin. Et puis les services de renseignement le surnommaient le ministre des attentats de Daesh. La mort d'Alan Nani en Syrie, cet homme avait appelé à tuer des Français avec n'importe quelle arme disponible. Ce Syrien est un pur produit de l'invasion américaine en Irak, nous dira Omar Waman. L'organisation État islamique et sa propagande, on en parle, Olivia Gesbert, après ce journal, dans la deuxième partie de la Grande Table.
Oui, parce que ces appels passent aujourd'hui majoritairement à travers des clips, des films qui, avec les moyens de communication modernes, font le tour du monde. Dans cette deuxième partie de la Grande Table, le réalisateur, scénariste et écrivain Jean-Louis Comolli est notre invité. Il signe en cette rentrée un essai percutant, Daesh, le cinéma et la mort. Et il s'interroge sur le destin des images aujourd'hui et sur la portée, bien sûr, de la propagande de l'État islamique.
Passation de pouvoir ce matin à Bercy après le départ d'Emmanuel Macron qui transmet son portefeuille de l'économie à son collègue des finances Michel Sapin. La séquence en son, on fait de la radio, c'était à 9h ce matin.
Les choix que j'ai pu faire, les circonstances que nous vivons aujourd'hui imposent aussi de prendre des risques et au fond, si j'ose cette métaphore, de prendre la mer. Bercy est une île formidable. J'ai été très fier d'y être avec vous. C'est une des îles essentielles de l'archipel que forme l'État. Mais je me devais de prendre la mer dans une embarcation résolument plus frêle, mais avec un cap et une volonté de prendre ce risque.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'on continuera à entendre parler de toi. Tant mieux. J'ai une conviction profonde que ce sera pour l'intérêt général et, sans vouloir forcer le trait ni tes convictions, dans l'intérêt du progrès, des progressistes, et comme de ce point de vue-là, moi, je suis culture un peu primaire, de la gauche. Bonne chance pour toi. Je souhaite que la bonne chance pour toi soit une bonne chance pour nous tous.
Michel Sapin devient donc le seul ministre pilote unique de Bercy, seul ou presque à devoir boucler l'ultime budget du quinquennat, charge sans doute trop lourde puisqu'il annonce ce matin qu'un quatrième secrétaire d'État sera nommé pour l'aider à assumer le portefeuille de l'économie. On rappelle la structure de Bercy. Aujourd'hui, Michel Sapin a déjà auprès de lui un secrétaire d'État tout de même au budget, un autre au numérique et puis un troisième au commerce et à l'artisanat. Un ministre Sapin qui, comme les autres, est appelé à être engagé dans une action collective, a dit François Hollande ce matin en commentaire sibyllin, c'était à l'occasion du Conseil des ministres. Emmanuel Macron se met donc de son côté en marche, ce mouvement, ni droite ni gauche, lancé au printemps par l'ancien banquier d'affaires. Je salue l'invité de ce journal, celui qui va prendre la tête de la Fondation pour l'Islam de France. Bonjour Jean-Pierre Chevènement.
Bonjour.
Vous avez été ministre sur cette idée d'un mouvement, ni de droite ni de gauche. Vous portez
quel regard ? Non, je n'ai jamais employé cette expression, ni droite ni gauche. J'ai dit que au-dessus de la droite et de la gauche telles qu'elles étaient devenues, hein, il y avait la République. Mais c'est tout à fait différent. D'abord, je ne disais pas que la droite et la gauche étaient des concepts définitivement périmés. Bien évidemment, je suis un homme de gauche.
Vous croyez toujours au clivage.
Mais à condition qu'il soit appuyé sur des analyses du monde dans lequel nous sommes. Et bien évidemment, les forces politiques ont pris un retard considérable parce qu'elles ne savent plus dans quel monde elles vivent. Donc le culte de la petite phrase, la démocratie politico-sondagière, la com qui a remplacé la réflexion de fond, c'est dramatique. Mais je pense que cette vision d'ailleurs tantôt plus libérale, tantôt plus sociale, fondent quand même une approche plutôt de gauche, plutôt de droite. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent s'opposer forcément, parce qu'on a besoin du marché, mais on a aussi besoin d'un État stratège. Donc dans mon esprit, il y a la possibilité de dépasser tout cela. Je pense que c'est ce qu'a voulu dire à un moment Emmanuel Macron, bien qu'il soit mal pris en employant cette expression connotée de ni droite ni gauche. Vous savez que Zev Sternel a fait un livre sur ce sujet et qu'il impute à tort ou à raison, à mon avis à tort, à la France d'avoir été la matrice de ce ni droite ni gauche qui serait en quelque sorte l'emblème du fascisme. C'était à l'époque de l'Action française, avant 1914. Mais je crois qu'aujourd'hui, voyons les choses autrement, c'est plus comme ça que les gens perçoivent la réalité. Emmanuel Macron est un homme de qualité, il a pris le large. On va attendre ses propositions à la fin du mois, mais si je pouvais lui faire amicalement une observation... Je le lui ai déjà dit en particulier, le dogme de l'efficience des marchés, c'est le dogme néolibéral. Donc on ne peut pas résumer un credo politique à une affirmation de foi néolibérale.
Surtout qu'il a ce passé qui peut lui coller à la peau de banquier d'affaires chez Rothschild.
Je crois qu'il est beaucoup plus intelligent et qu'il a un certain sens de l'État. Mais bon, c'est à lui de le démontrer.
On verra dans les prochains mois. Merci Jean-Pierre Chevènement. On vous retrouve dans une petite dizaine de minutes pour parler de laïcité dans l'abécédaire de campagne. Une réaction, celle de Bruno Le Maire, probable candidat à la primaire de droite, qui ne croit pas, dit-il ce matin, au mélange des genres, à cette idée qu'il n'y a plus de droite ou de gauche. Je pense que les Français ont besoin de clarté dans le positionnement, dit Bruno Le Maire. Donc il n'y a plus ni droite ni gauche, pardon. Bruno Le Maire s'exprimait à Jouy-en-Josas, près de Paris, à l'université d'été du MEDEF, où nous retrouvons Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour Ludovic.
Traditionnelle université où défilent les candidats à la primaire des Républicains. François Fillon hier soir, Alain Juppé tout à l'heure, Nicolas Sarkozy il y a quelques minutes, et puis j'en parlais, Bruno Le Maire, un défilé des candidats devant les patrons, qui a peut-être au moins un mérite, Stéphane, c'est de sortir un peu de cette campagne primaire où nous ne parlions jusque-là que d'autorité et d'identité.
Oui, c'est bien évidemment sur les questions économiques que les entrepreneurs attendent les candidats à la primaire à droite. Et au vu des deux interventions ce matin, celle de Bruno Le Maire d'abord, celle de Nicolas Sarkozy ensuite, on peut dire qu'ils en ont eu pour leur argent en matière de promesses électorales. Bruno Le Maire d'abord a promis de supprimer le compte pénibilité qui hérisse les patrons au plus haut point, de supprimer l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, d'abaisser la fiscalité sur le revenu du capital à 25% ou encore d'abroger la loi Hamon qui donne aux salariés un droit de préemption sur le rachat des entreprises. Nicolas Sarkozy lui a promis plus encore, égrenant pendant une quinzaine de minutes les mesures qu'il déciderait s'il était élu. Et on retrouve un peu les mêmes choses, suppression du compte pénibilité, simplification des normes jugées trop compliquées, la suppression de l'ISF également, mais aussi une baisse des charges sur les entreprises de 34 milliards d'euros, baisse de la dépense publique 100 milliards d'euros et des coupes sombres dans les effectifs des fonctionnaires. Alors ce qui est notable, c'est que les interventions des deux candidats n'ont pas du tout été accueillies de la même manière. Bruno Le Maire, qui pourtant a fait moins de promesses, a été très applaudi, peut-être d'ailleurs parce que son programme un peu plus mesuré est jugé plus crédible. Pour Sarkozy, en revanche, les applaudissements ont été beaucoup plus timides. On sentait une grande réserve de la part des patrons, voire de la méfiance. C'est peut-être dû au fait que son programme apparaît plus extravagant, donc moins réaliste, mais surtout sans doute au fait qu'il a déjà été en responsabilité et les entrepreneurs ont vraisemblablement l'impression qu'il leur sert du réchauffé.
À Jouy-en-Josas, Stéphane Robert et les moyens techniques de Jérémy Thuile. On parle du TGV du futur. Dans une semaine, l'État et la SNCF choisiront l'un des champions tricolores du secteur des transports, Alstom, pour imaginer le train à grande vitesse de demain. C'est un beau projet. Forcément, ça fait un peu rêver ce partenariat d'innovation, comme on l'appelle, et surtout une bonne nouvelle pour l'emploi en France, pour les usines d'Alstom, notamment une que vous connaissez bien, Monsieur Chevènement, à Belfort, mais aussi à La Rochelle, à Kim Kasmi.
Et vous avez dit que pour l'instant, la SNCF et Alstom, que nous avons joué ce matin, refuse de donner plus de détails. Cela sera fait la semaine prochaine, en fait, lors d'une conférence de presse. En attendant, eh bien, cela redonne du baume au cœur aux salariés français, des salariés qui ont déjà appris avec stupéfaction que le TGV que Alstom va vendre aux États-Unis ne sera pas produit en France. Car ces dernières années, si Alstom Transport connaît un carnet de commandes record, il produit principalement ses trains et ses tramways dans les pays où il a signé ses contrats. C'est un peu pour lui la seule manière de pouvoir vendre ses trains et ses tramways, car aujourd'hui, en fait, les clients veulent du transfert de technologie et de l'emploi local. C'est aussi de plus en plus la seule manière d'avoir des crédits bancaires pour signer ces contrats. En attendant, la SNCF doit renouveler une partie de ses rames qui ont plus de 30 ans. Un appel d'offres doit être lancé, mais pour l'instant, l'entreprise, qui voit ses parts de marché reculer sur le secteur de la grande vitesse, hésite encore. Mais cela devrait intervenir d'ici quelques mois, voire peut-être même quelques années, tout dépendra de la situation économique, car la SNCF, qui perd beaucoup d'argent sur la grande vitesse, se retrouve face à la concurrence, en fait, du covoiturage et même des cars Macron. Autre enjeu, eh bien, c'est la compétitivité, puisque la SNCF aujourd'hui doit produire des TGV. Utiliser des rames qui coûtent moins cher, car les TGV sont anciens, ils consomment beaucoup d'électricité, ce qui est mauvais pour l'environnement. Et là, la concurrence est rude, puisque les Chinois et les Japonais notamment ont des TGV bien plus innovants que les nôtres.
Merci Hakim Kasmi. Au sein de l'organisation État islamique, Abu Mohamed al-Adnani était un homme important, un cadre chargé de distiller une propagande de mort. C'est lui qui invitait, par exemple, il y a 2 ans, dans un document sonore que l'on pouvait trouver sur Internet, à tuer des Français par n'importe quel moyen, disait-il. Si vous ne trouvez pas d'explosifs ou de munitions, isolez l'infidèle, écrasez-lui la tête à coups de pierre, tuez-le avec un couteau, etc., etc. C'est de lui dont s'était inspiré l'auteur de l'attaque au couteau des 2 policiers à Magnanville dans les Yvelines au tout début de l'été. Abu Mohamed al-Adnani a été tué vraisemblablement hier par une frappe américaine sur sa voiture à Al-Bab, au nord-est d'Alep. Il est un pur produit de l'invasion américaine en Irak en 2003. C'est la correspondance à Beyrouth de Marwaman.
Abu Mohamed al-Adnani avait 25 ans lorsque George Bush a lancé l'invasion de l'Irak pour chasser Saddam Hussein du pouvoir. Le sang de cet ouvrier dans le bâtiment de la région d'Idlib, dans le nord de la Syrie, ne fait qu'un tour. Il devient l'un des premiers combattants étrangers à traverser la frontière pour aller combattre les forces américaines. Et comme de nombreux djihadistes, il est rapidement capturé et emprisonné. C'est en détention qu'il va rencontrer celui qui va devenir calife autoproclamé du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Une fois libéré, les 2 hommes retourneront dans la clandestinité de la guérilla, mais ils se retrouveront dans le désir de créer dans la région un État sunnite, islamiste, ultra-radical et régi par la charia. C'est le retrait des forces américaines en 2011 et le début de la révolution syrienne la même année qui vont accélérer les événements. Les 2 États des 2 côtés de la frontière sont fragilisés. Les djihadistes en profitent et réalisent leur rêve. Adnani est chargé en tant que porte-parole officielle de diffuser la propagande de l'organisation afin d'attirer des combattants du monde entier. Mais les premiers bombardements de la coalition internationale en septembre 2014, américains d'abord puis français ensuite, vont élargir son champ d'action. Désormais, il sera également chargé de frapper sur leur sol les pays qui participent à cette campagne de raids aériens. Ses enregistrements audio, relayés sur Internet et ses relations privilégiées avec de nombreux djihadistes français et belges sont à l'origine d'une vague d'attentats en France qui ont causé la mort depuis janvier 2015 de 238 personnes.
Et de Daesh, on reparle dans la deuxième partie de la grande table avec Olivia Jesbert. Un petit mot sur votre invité à venir, Olivia.
Oui, Jean-Louis Comolli, qui est donc réalisateur, cinéaste, qui a travaillé très méticuleusement sur les images, et plus que l'imagerie d'ailleurs, de l'organisation État islamique, avec un ouvrage à paraître, Daesh, le cinéma et la mort.
Beaucoup de retard au Gabon, on attend toujours le résultat de l'élection présidentielle. La nuit a été longue, les conciliabules continuent au sein de la commission électorale donc qui désignera soit Jean Ping ou le chef de l'État sortant, Ali Bongo. Mesdames, l'enfant à naître est-il bien de votre mari? En êtes-vous sûres et certaines? Voilà, outre-Rhin, la drôle de question qui pourrait bien être posée aux épouses qui devront faire aveu d'infidélité. Cyril Sauvageau, vous êtes notre correspondant en Allemagne, bonjour.
Bonjour.
Cyril, c'est en tout cas le sens du projet de loi adopté ce matin au Conseil des ministres à Berlin.
Oui, et si l'Allemagne s'apprête à légiférer sur ce sujet sensible, ce n'est pas pour faire la chasse à l'adultère, mais pour donner des droits et des moyens de recours aux pères, en particulier ceux qu'on appelle les faux pères, ces hommes qui élèvent sans le savoir, parfois pendant des années, un enfant qui n'est pas le leur. Cette loi leur permettra de ne plus payer de pension alimentaire une fois le secret révélé, mais aussi de réclamer des compensations financières pour avoir pris en charge l'éducation de l'enfant. Jusqu'ici, ce type de recours est impossible. La législation allemande, il faut le savoir, est très peu favorable au père sur la question du droit de visite, par exemple, pour un père divorcé. La Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction, a saisi du sujet en 2015, qui a intimé l'ordre au gouvernement de faire évoluer la loi. présenté ce matin par le ministre de la Justice, Heiko Maas, est déjà très commenté, très critiqué. Il pose plusieurs questions. Dans quel cas pourra-t-on obliger une femme à dévoiler le nom d'un ancien partenaire? Quelles seront les exceptions? Et que risquera-t-elle si elle n'avoue pas? En voulant régler des conflits, la loi pourrait bien en causer d'autres et engorger à son tour les tribunaux allemands qui traitent chaque année des centaines d'affaires de ce genre.
Cyril Sauvageau, notre correspondant à Berlin. Empêcher le développement d'un Internet à deux vitesses. L'Europe a fait hier un pas de plus pour garantir ce qu'on appelle la neutralité du net. Les défenseurs d'un Internet libre et ouvert se sont réjouis après la publication de ces nouvelles règles édictées par l'ORES, l'organe qui regroupe les régulateurs européens des télécoms, a publié ses lignes directrices pour expliquer comment la neutralité du net, Catherine Pétillon, sera appliquée et contrôlée dans l'Union européenne. Ces règles encadrent l'application d'un règlement européen adopté en novembre 2015. Elles arrivent après une série de consultations publique, cela a duré 6 semaines et il y a eu 500 000 de contributions de la société civile.
Oui, rappelons d'abord que derrière une expression un peu ennuyeuse, eh bien, il y a surtout un principe essentiel qui est au fondement même d'Internet, la neutralité du net. C'est l'idée que sur le web, tous les contenus sont égaux. On y accède avec le même débit ou la même qualité de trafic. Alors, ce que les régulateurs européens ont défini, c'est la manière dont les autorités nationales devront concrètement veiller à ce principe, principe qui subit les assauts des lobbies des télécoms, car pour augmenter leurs revenus, eh bien, les fournisseurs d'accès sont tentés de favoriser certains contenus ou au contraire de ralentir le trafic pour d'autres, bref, d'avantager ceux qui ont les moyens de payer. Alors le texte publié hier détaille comment chaque pays devra se prémunir d'un Internet où seuls les plus riches pourraient s'offrir des services de qualité. Parmi les règles définies, celles sur les services spécialisés comme la voiture ou la médecine connectée, alors il sera bien possible d'augmenter le débit alloué à un service qui le nécessite, mais à condition de ne pas ralentir un autre. Concrètement, on ne pourra pas détériorer l'accès à YouTube au prétexte d'améliorer un service de télémédecine. Autre précision, les forfaits avec accès illimité à un service, par exemple Facebook, il sera interdit d'en favoriser un. Un opérateur pourra donc proposer un accès illimité aux sites de musique en ligne en général. En revanche, privilégier dans son offre Spotify ou Deezer est interdit. Alors si les opérateurs font grise mine, de nombreux défenseurs des libertés numériques se sont réjouis hier et ont salué une victoire de la société civile.
Merci Catherine Pétillon.
12h passées de 47 minutes sur France Culture. Tout de suite la suite du journal de Ludovic Piétenu.
Et c'est l'ABCDR de la campagne. Premier numéro sur la route de la présidentielle. Nous débattrons des idées à France Culture. Promis, des concepts brassés dans cette campagne. Chaque mercredi, un invité et un sujet avec Jean-Pierre Chevènement. Aujourd'hui, nous ouvrons notre dictionnaire à la lettre L, L comme laïcité. Je vous demande, Jean-Pierre Chevènement, une courte définition, pas celle du Robert ni du Larousse, la vôtre.
La laïcité est la séparation de la spiritualité qui peut s'épanouir librement et de l'espace public commun de débat, où les citoyens, quelle que soit leur religion, leur philosophie, sont appelés à débattre d'une manière raisonnable, à la lumière de ce que le prophète appelle la raison naturelle, mais ça n'existait pas au XVIIIe siècle, on disait la raison, tout simplement. Ou le bon sens, chose du monde la mieux partagée, selon Descartes.
Cette loi de 1905 est-elle trop vieille, selon vous? Faut-il la réviser?
Non, vous savez, tout a commencé quand la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'insiste sur le « et du citoyen » parce qu'on l'oublie souvent, a proclamé la liberté d'opinion, virgule, même religieuse. C'est en 1789. À partir du moment où les cultes sont libres, le culte catholique se trouve confronté à un problème majeur. C'était le droit divin qui fondait toute l'organisation de la société. L'Église possédait une grande partie des terres. On lui impose la constitution civile du clergé. Et il y a les prêtres réfractaires, c'est-à-dire que la Révolution se heurte à l'Église. Très vite, il y a un débat au sein de la Convention entre les disciples de Rousseau, Robespierre notamment, qui veut créer une sorte de religion civile, le culte de l'être suprême. Ça agace énormément tous les autres, qui sont des voltairiens, plutôt des incroyants, ou des disciples des encyclopédistes. Et on s'oriente en 1794 vers la séparation de l'Église et de l'État. Mais c'est mal compris, les esprits ne sont pas mûrs. Bonaparte siffle la fin de la récréation, si je puis dire. En 1801, le premier consul convoque le pape à Paris et lui impose un concordat qui, en fait, met l'Église catholique en tutelle. Mais Mais l'Église catholique s'en trouve fort bien. Il faudra presque un siècle, plus d'un siècle, pour aller vers la séparation de l'Église et de l'État. Ce que je voudrais dire, c'est que
les républicains... Dû à un affaiblissement de la religion catholique.
Alors, la religion catholique est une religion comme les autres. Elle est libre de sa spiritualité, de ses dogmes, de tout ce qu'elle veut. Hein, mais en dehors du champ commun, qui est celui de l'exercice du jugement critique, on appelle les citoyens à définir ensemble l'intérêt général. C'est ça, la République. Mais des citoyens formés par l'école, d'où le rôle de l'école publique en France, qui est majeur, par rapport à la République, et c'est ce système qui, finalement, marche assez bien, dont tout le monde finit par s'accommoder. Alors, aux Juifs, on a imposé un autre système, c'est toujours Napoléon, le Grand Sanhédrin, et puis le Consistoire central, ça dure toujours. Hein. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'islam, mais est-ce que ça doit vraiment poser problème? Pour moi, non, parce que l'islam, d'abord, en France, est une religion minoritaire, bien que pratiqué par 4,1 millions de fidèles, selon l'Institut national d'études démographiques. Et dans cette situation de religion minoritaire, l'islam a tout à gagner à la laïcité. Je pourrais développer, par exemple...
Minoritaire, mais en développement, c'est ça.
Mais en développement, mais enfin, très largement minoritaire. Il y a quand même 65 millions de Français. Donc, je dirais que la laïcité peut permettre... qu'il y ait entre les musulmans et la République un pacte, dès lors qu'ils acceptent les grands principes républicains, ce qu'ils ont accepté, car j'ai lancé une consultation en 1999, et le 28 janvier 2000, ils ont signé une déclaration, avec moi d'ailleurs, et toutes les sensibilités de l'islam, il y en avait 7, les grandes mosquées, des personnalités qualifiées, on peut dire que tout l'islam... existant en France, s'est rassemblé pour dire qu'ils acceptaient la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, l'égalité homme-femme, etc., etc. Et même la liberté de changer de religion, quoi qu'on en ait dit, parce que j'ai renvoyé à la Convention européenne des droits de l'homme qui spécifie parfaitement ce droit. Donc voilà, c'est sur cette base-là que le Conseil français du culte musulman a été créé par Nicolas Sarkozy en 2003.
Hein, que tout le monde a vu comme un progrès à l'époque.
Oui, moi-même je l'ai approuvé. Ça n'a pas été facile, mais il ne faut pas non plus exagérer le culte, le Comité français du culte musulman n'a que
12-13 ans.
Si vous regardez l'Église catholique, combien de temps lui a-t-il fallu pour établir ses dogmes, trouver ses équilibres, ses conciles, plusieurs siècles, n'est-ce pas?
Revenons à cette idée de laïcité, Jean-Pierre
Soyons un peu patients et respectueux de l'œuvre qu'a déjà accomplie le Conseil français du culte musulman.
Le dessinateur Charb, tué à Charlie Hebdo en janvier 2015, disait ceci: « J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. » Est-ce que vous êtes pour un réveil des laïcs?
Bien, oui, je pense qu'il faut que les laïcs expliquent ce qu'est la laïcité. Elle n'est plus comprise. Donc il y a beaucoup de malentendus. Beaucoup de musulmans pensent que la laïcité, c'est l'athéisme, ou même l'agnosticisme. C'est pas du tout ça.
Comment on communique là-dessus? Comment on transmet?
Eh bien, il faut le dire, à votre micro, je dis que la laïcité n'est pas tournée contre la religion. Elle permet au contraire l'épanouissement de la spiritualité, mais elle crée un espace commun, l'espace républicain, où chacun est invité à faire prévaloir des arguments raisonnables et non pas à exciper de la révélation qui lui est propre. Autrement dit, dans l'espace public, les dogmes religieux n'ont rien à faire. Ce qui est important,
ça, c'est laïcité le débat républicain. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est Philippe Portier qui réfléchit à ces questions de laïcité, qui se qualifie
contrôleuse.
La laïcité contrôleuse, contenir la religion dans la sphère privée. Cette laïcité qui est plutôt à la mode aujourd'hui.
Disons, qu'est-ce que vous voulez, dans la sphère publique, les processions sont admises, les sonneries de cloches, hein, et même un certain nombre de manifestations peuvent être admises, mais elles sont réglementées. Il y a une jurisprudence du Conseil d'État, hein, et moi je n'accepte pas cet adjectif de laïcité contrôleuse.
Bon, disons que Philippe Portier était notre invité hier, pardon de vous interrompre, Jean-Pierre Chevènement, dans la grande table, il parlait d'une liberté une laïcité de surveillance, voilà, plutôt une loi de liberté qui était aujourd'hui retournée manipulée, quelque part détournée, et ça s'explique par le contexte politique actuel pour entretenir un sentiment de surveillance, voilà, sur une partie de la population.
Oui, on peut toujours expliquer les choses d'une manière, je dirais, dédramatisée. Disons que quand même, l'évolution du monde musulman vers le fondamentalisme religieux, depuis 40 ans, qui se traduit par une certaine signalétique vestimentaire, capillaire, etc., ce n'est pas la religion, ça, c'est une tendance de la religion, c'est-à-dire le fondamentalisme religieux. Donc, dans l'espace de l'école, il a paru bon, et moi-même je l'ai approuvé, que les signes ostentatoires d'appartenance religieuse soit interdit. Mais pour moi, c'est la sauvegarde de l'espace républicain. Ce n'est pas un contrôle tatillon, vétilleux, tracassier. Je suis contre toute réglementation excessive. Mais là, elle portait sur un point essentiel, c'est que l'école, selon la conception que développait le philosophe Alain, doit rester protégée, un sanctuaire, disait Alain. Et là, on s'instruit à la lumière des connaissances que dispensent les enseignants, avec naturellement l'appel fait à la raison, à l'esprit critique. C'est une éducation à la liberté.
Liberté plutôt que l'interdit, Ludovic Piedoli.
Merci Jean-Pierre Chevènement. Donc bientôt à la tête de la Fondation de l'Islam de France. Merci d'avoir été l'invité de ce premier abécédaire de campagne que l'on referme. Cette entrée laïcité va rejoindre franceculture.fr parce qu'on a bien compris que ce mot de laïcité était polysémique et puis qu'il était aussi au centre des débats sans doute de cette présidentielle. On aura l'occasion de réévoquer la laïcité avec d'autres invités au cours de cette année électorale. Je vous donne un mot du temps de ce mercredi après-midi, dernier jour d'août, retour de l'été, ciel chargé uniquement sur le nord du Finistère et sur le sud-est du pays, avec des averses sur la Corse et la Côte d'Azur. 21 à 26 degrés près de la Manche, 26 à 32 degrés partout ailleurs. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. À 18h, vous retrouverez Véronique Rebérotte pour le prochain journal.